Grand Angle sur Radio Orient.
Bonjour à toutes et merci d'être avec nous sur Radio Orient et ce nouvel épisode de Grand Angle. En cette fin d'année 2025, la situation humanitaire à Gaza reste au cœur des inquiétudes. L'Union européenne avertit Israël qu'une suspension d'ONG liée à de nouvelles règles d'enregistrement risquerait d'empêcher l'acheminement d'une aide vitale. Israël demande notamment aux ONG de transmettre la liste de leurs employés palestiniens, faute de quoi certaines pourraient ne plus opérer en 2026 avec une licence révoquée dès le 1er janvier et l'obligation de cesser toute activité d'ici le 1er mars. Dans le même temps, les ONG et l'ONU décrivent une aide toujours insuffisante malgré le cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre. Pour faire le point, je reçois Nizar Badran, président de l'association Palmette France. Bonjour Nizar Badran.
Oui, bonjour madame.
Alors Nizar Badran, sur le terrain, qu'est-ce que signifie très concrètement la menace de suspension d'ONG à Gaza ?
Ces associations, ces organisations internationales, au fait, ils font l'essentiel de l'activité de soutien humanitaire. Il y a à peu près un milliard de dollars dépensés par ces organismes tous les ans, donc c'est une somme très importante. Quand on cite celles qui étaient empêchées d'exercer à partir de demain, c'est quand même les plus grandes. Hein. C'est MSF, Médecins du Monde, CARE, Oxfam, Terre des Hommes, Lutte contre la faim, etc., etc. Il y en a 37. Donc sur le 80 à peu près à ce organisme, le plus important sont empêchés parce que les Israéliens, ils ont demandé un re-enregistrement au mois de mars dernier. Et le re-enregistrement, ça, ils mettent de conditions, si vous voulez, contraires aux lois internationales, aux règlements de droit international humanitaire. Donc, ces organisations internationales n'ont pas accepté, bien sûr, d'obéir. Il y a une petite fraction qui a accepté quand même, mais pas l'essentiel. Alors, ces organismes internationaux, les organisations internationales non gouvernementales, ils couvraient déjà, une activité importante sur le plan de la santé, ce que nous concerne en premier chef, mais aussi sur le plan de la sécurité alimentaire, sur le plan des abris, approvisionnement des abris, surtout avec le temps qu'il fait actuellement, sur l'eau, l'assainissement, l'hygiène, sur la nutrition, sur les actions anti-mines et déblayement des décombres, mais aussi sur l'éducation. Donc vous avez déjà pas mal de choses où ces organisations internationales sont impliquées de façon très importante. On peut rentrer un peu dans les détails si vous voulez. Hein.
On y reviendra bien sûr. En quoi, c'est vrai que vous l'avez dit, il y a une nouvelle procédure d'enregistrement. Israël demande aux ONG de transmettre la liste de leurs employés. En quoi cette exigence change le travail de ces organisations au quotidien ?
On ne peut pas dire, nous, exactement quelles sont les conditions exigées par les Israéliens, mais les Israéliens, ils ont politisé leur enregistrement et ça devient arbitraire. Et le but principal d'avoir les noms, c'est d'empêcher justement ces personnes de travailler. Il s'est accusé, de certaine façon, les organisations, ça c'est une accusation souterraine, hein, de dire que ces organismes internationaux, de certaine façon, couvrent des activités illégales aux yeux
des Israéliens.
Voilà. Le droit international n'oblige pas de fournir les noms des personnes, hein, comme le droit des Israéliens. Il faut bien comprendre que le but principal, à mon avis maintenant, le but principal de ces mesures, ce n'est pas vraiment les organisations internationales. C'est pas les ONG, c'est plutôt la population civile palestinienne. Ce qu'on cherche, c'est encore serrer le vis, compliquer la vie des habitants de la bande de Gaza, et surtout avec ce temps, avec l'hiver, de telle façon de les pousser au départ. Donc le but principal, enfin, je veux dire, la finalité de l'action israélienne, ce n'est pas vraiment une finalité légale ou vérifier les lois, c'est plutôt une finalité politique, c'est de chercher à encore agir sur les Palestiniens, les civils palestiniens, pour de certaine façon les obliger plus tard à partir, de rendre la vie impossible à Gaza. Et voilà, c'est ça le but, c'est pas du tout vraiment les organisations en elles-mêmes. Parce qu'on ne peut pas imaginer que MSF ou Médecins du Monde ou Oxfam a des activités illégales dans un endroit quelconque dans le monde, hein. Il n'y a pas que la Palestine. Il n'y a jamais eu de problèmes qui sont suscités par l'action de ces organisations. Quand on pense que l'UNRWA, qui est un organisme des Nations Unies, était quand même presque suspendu de son activité dans le territoire palestinien. On imagine bien que les Israéliens n'ont pas de limites dans leurs exigences et dans leurs demandes. Ils font ce qui leur plaît et c'est tout. Hein. Ils exécutent de certaine façon la politique tracée par leur gouvernement. Et cette politique, actuellement, c'est de faire pression encore plus sur les Palestiniens. Ben, c'est à travers ces organisations que le font actuellement.
Nizar Badran, quelle est la situation actuelle de l'entrée de l'aide humanitaire? On sait qu'après le cessez-le-feu du 10 octobre, un accord prévoyait l'entrée de 600 camions par jour. Les ONG et l'ONU parlent plutôt de 100 à 300 camions d'aide humanitaire. Qu'est-ce que cette différence change, notamment dans les services de santé?
Voilà, les besoins ne sont pas vraiment couverts par le nombre ou par la quantité de l'aide internationale actuellement qui est permise de rentrer. Et il y a par exemple sur le plan médicaments, parce que c'est un peu le point qui nous intéresse, sur le plan médicaments, il y a 30% uniquement de produits qui ont été autorisés à rentrer, c'est-à-dire 410 tonnes de médicaments. Et il y a les 70% qui restent, ils sont sur les frontières en Égypte, donc... On voit bien que, qu'est-ce que c'est ces produits? C'est des kits de traumatologie, c'est des kits de chirurgie, c'est des produits à base d'insuline, c'est des médicaments contre le cancer, c'est des vaccins. Quand vous dites qu'il y a 30% de ces produits qui sont rentrés, vous imaginez que la population n'est pas vaccinée, les médicaments contre le cancer ne sont pas disponibles, l'insuline pour les diabétiques n'est pas disponible, les interventions chirurgicales ne peuvent pas être exécutées, etc., etc. Donc c'est très important que les Palestiniens, 2 millions de Palestiniens, un peu plus, puissent recevoir leurs besoins en matériel médical et en produits. Alors si on parle sur le plan alimentaire, c'est pareil. Il y a le besoin en alimentation n'est pas couvert, évidemment. Là, on peut dire qu'il y a aussi le côté commercial. Il y a aussi des commerçants qui vont rentrer des produits. Mais ça, même les commerçants qui rentrent des produits, qui font rentrer des produits, et l'aide internationale qui rentre, ne suffit pas du tout à couvrir le besoin de la population. Il faut bien noter que, d'une certaine façon, les Israéliens utilisent l'aide internationale comme un moyen politique. C'est-à-dire, vraiment, ils sont contre la loi internationale. On ne peut pas. Une puissance occupante, normalement, est responsable de la population occupée, de la population civile. C'est à Israël de fournir le nécessaire sur tous les plans, médical, alimentaire, abri, soins de santé, éducation, au territoire de Gaza. C'est une obligation légale. C'est pas, ils le font pas uniquement, mais ils empêchent les autres de le faire. Et on peut pas dire que le rôle attribué aux Nations Unies et aux organisations non gouvernementales, et c'est un rôle primordial par essence. Non, il est primordial parce que celui qui devait le faire ne le fait pas. C'est la force occupante. C'est pas, il ne le fait pas, mais il aggrave la situation. Il faut vraiment que la loi internationale soit appliquée, que le gouvernement du monde, le gouvernement occidental, les États-Unis, et toutes les puissances qui ont les moyens de pression sur le gouvernement israélien puissent agir dans ce sens-là. Mais malheureusement, ce n'est pas du tout le cas. On ne constate pas du tout actuellement la moindre pression ou la moindre exigence réelle des puissances alliées d'Israël sur Israël.
Alors justement, Nizar Badran, l'Union européenne a demandé que tous les obstacles soient levés. Que peut faire justement l'Union européenne après cet avertissement?
Disons, ça fait quand même plusieurs années, même au moins deux ans, que l'Union européenne dit la même chose. Il faut que les Israéliens arrêtent la colonisation en Cisjordanie, il faut qu'ils ouvrent les points de passage, mais demander comme ça, ça n'a aucun sens. Et il y a déjà l'accord d'association avec Israël. Tout le monde sait que si on suspend cet accord d'association, l'échange économique entre Israël et l'Europe, qui est le principal partenaire commercial d'Israël, c'est l'Europe. Hein. Donc si ce principal partenaire pose des conditions sur l'échange économique, et comme c'est plus d'ailleurs la première ou la deuxième article de l'accord, il faut respecter les droits de l'homme. Dans tout accord commercial que l'Europe signe, il y a toujours un point, dans le premier ou le deuxième, le pays concerné doit respecter les droits de l'homme. Donc si les Israéliens ne le respectent pas, les Européens affichent simplement leur demande, etc., de faire entrer, mais dans la réalité, ils n'utilisent pas du tout les moyens à leur disposition qui existent. Déjà, arrêter cet accord de coopération. Et c'est la fourniture des armes. Il y a beaucoup de choses qui se produisent. L'Europe, quand même, c'est un partenaire majeur, beaucoup plus même que les États-Unis, pour Israël. Donc, tant qu'ils n'ont pas utilisé les moyens à leur disposition réellement pour faire pression sur le gouvernement de Netanyahou, on peut toujours rêver. Hein. Alors, il n'y aura jamais rien. La puissance israélienne est soutenue par les États-Unis de façon directe, et cette puissance, elle fait absolument fi de tout obstacle, de toute opposition. Donc il faudrait vraiment une puissance, une autre puissance du poids de l'Europe qui puisse être là pour agir dans le bon sens.
Merci Nizar Badran d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes président de Palmette France. Ce grand angle est à réécouter sur notre site ainsi que sur Spotify. Merci à vous de nous suivre et excellente suite de programme sur Radio Orient.
C'était Grand Angle sur Radio Orient.